Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama, émission du mercredi 24 mars. Nous sommes deux aujourd'hui dans le studio de Divergence. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Alors il y avait beaucoup de films qui sont sortis la semaine dernière, mais en revanche ça nous a pas forcément tenté, hein, parce qu'on vient seulement avec deux chroniques aujourd'hui et puis deux gros plans sur deux réalisateurs qui ne se ressemblent pas. Hein.
Tout à fait, moi je vous parlerai un petit peu de Bad Lieutenant, alors ça ce sera en fin d'émission si on a le temps. On en discutera un petit peu parce que tu l'as vu aussi. Et sinon, le gros morceau d'aujourd'hui, ce sera un portrait de Tim Burton et un petit voyage à travers sa filmographie.
À l'occasion évidemment de la sortie de Alice au Pays des Merveilles, je crois que c'est la plus grosse sortie de ce jour.
De ce jour, oui, avec l'Immortel, films français, quelques films français également qui sortent, mais qui ne rivaliseront pas avec ce gros film en 3D de Tim Burton.
Et puis, Divergence est partenaire des Rencontres du Cours qui vont se dérouler à partir de ce vendredi avec un grand hommage à Eric Rohmer. Et il y aura aussi un hommage à Eugène Green. Alors, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas trop Eugène Green, eh bien moi, je ferai un plaisir de vous en parler. Et puis, je ferai une petite chronique aussi sur le dernier film de Fatih Akin, Soul Kitchen, une comédie plutôt réjouissante. Mais avant tout cela, évidemment, nous commençons avec Tim Burton, qui sera en deux parties. Hein.
Tout à fait. Donc voilà, aujourd'hui sort en salle le nouveau film de Tim Burton, donc une version moderne à la sauce 3D du classique de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Et bon, on n'a pas vu le film encore, et en attendant de voir le résultat, c'est l'occasion de revenir un petit peu sur la filmographie et sur l'univers singulier de ce réalisateur. Alors, dès le lycée, Tim Burton se fait remarquer pour ses talents de dessinateur. Et en 1976, il va décrocher une bourse d'études pour intégrer le fameux California Institute of Art, fondé par Walt Disney, et qui sert de réservoir à talents pour le studio. Donc, après 3 années d'études au CalArt, Burton finit par être embauché chez Disney pour travailler sur Rocks et Rookies. Mais bon, le futur papa de Beetlejuice n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde que ses employeurs, et dessiner des mignons petits renards ne l'épanouit pas vraiment. Donc tout au long des années qu'il passe au sein de Disney, Burton va ronger son frein en attendant qu'on fasse enfin confiance à son talent. Il travaille entre autres sur Taram et le Chaudron Magique, donc une autre production Disney, mais ses dessins ne sont finalement pas utilisés dans le film. Et ce n'est finalement qu'en 1982 que Burton a l'occasion de réaliser un projet qui lui tient vraiment à cœur, Vincent. Donc c'est un court-métrage d'animation adapté d'un poème en vers qu'il a composé et qui raconte l'histoire d'un petit garçon dont le passe-temps favori est de lire du Edgar Poe et de se prendre pour Vincent Price, le célèbre acteur de films d'épouvante et véritable idole de Tim Burton, qui accepte d'ailleurs de participer au film en tant que narrateur.
Vincent Malloy is 7 years old. He's always polite and does what he's told. For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. He doesn't mind living with his sister, dog and cats, though he'd rather share a home with spiders and bats. There he could reflect on the horrors he's invented. And wander dark hallways alone and tormented.
Alors si Vincent s'avère être une vraie réussite artistique, le court-métrage ne plaît pourtant pas au studio qui le juge trop sombre et il va rejoindre dans les cartons les dessins jamais utilisés de Tim Burton. Donc après 5 ans passés dans l'écurie Disney, pendant lesquels il réalise un autre court-métrage, Frankenweenie, qui connaît le même sort que Vincent, Tim Burton quitte le studio et signe chez Warner pour mettre en scène Pee-wee's Big Adventure, donc adaptation sur grand écran des aventures d'un personnage de la télévision créé par Paul Rubens. Alors pour son premier long-métrage, Burton doit composer avec un scénario clé en main, un univers et un personnage préexistant. Mais bon, malgré ses contraintes, Burton s'en sort plutôt bien et Pee-wee's Big Adventure devient le premier succès public de Tim Burton. Donc après cette incursion concluante dans la comédie pour enfants, Burton a quand même un peu peur de se faire étiqueter par Hollywood et il décline donc plusieurs autres comédies un peu stupides avant de s'embarquer sur Beetlejuice, dont le sujet lui plaît particulièrement. Donc Beetlejuice nous plonge dans un univers délirant où un jeune couple récemment décédé va tenter de faire fuir les nouveaux occupants de leur maison. Et pour ce faire, ils font appel à un autre fantôme, le Beetlejuice du titre, qui va s'avérer être aussi horrible qu'envahissant.
Barbara. Dis donc, toi t'as du goût pour les jolies poulettes, ça marche bien entre vous ou j'ai des chances de me la faire?
Excusez-moi.
Oh, j'ai dû vexer, monsieur, faut pas m'en vouloir, je suis direct. Et vous savez ce qui me branche chez vous deux? C'est que vous m'avez choisi. Vous étiez pas obligé, mais vous l'avez fait quand même et ça me donne envie de vous embrasser.
Viens.
Ok, on va parler boulot. Alors, attendez, où est-ce que j'ai foutu ma carte? Voilà, faut que je tue quelqu'un. Tiens-moi ça, toi. Là. Tiens, la voilà, ma carte.
Non, vous n'aurez pas besoin de tuer quelqu'un.
C'est une possession, je le savais. Semez la mort, jetez des sorts, envoûtez les copains.
Du calme, on veut juste chasser une famille de dingues hors de notre maison.
Oh, mais je sais ce que c'est. Écoutez, avant de faire ça, il faudrait qu'on se connaisse un peu mieux, je crois. Il faut qu'on devienne acolyte, un peu plus d'intimité à trois, ça peut pas nous faire de mal. Vous voyez ce que je veux dire, hein?
Ma femme et moi, on aurait quelques questions à vous poser.
Oui, mais vas-y, mon petit gars, accouche.
Voilà, quelles sont vos qualifications?
Ah oui, j'ai fait lettres, diplômé d'Harvard et après j'ai beaucoup voyagé. J'ai traversé la grande peste noire et ça m'a bien éclaté. J'ai vu l'exorciste 2747 fois. À chaque fois, je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette ce film, nom de Dieu! Sans oublier que vous parlez à un type qui est complètement mort! Alors ça vous va? J'ai les qualifications.
En fait, j'aimerais savoir si vous pouvez faire peur.
Oh, je vois ce que c'est, monsieur est sceptique. Est-ce que je peux faire peur? Vous allez me dire? Vous aimez.
Donc avec ce film, Burton laisse libre cours à son imagination débordante et nous plonge dans un grand bordel coloré et morbide où l'animation, les costumes et les effets spéciaux permettent aux visions joyeusement cauchemardesques du réalisateur de prendre vie. Donc Beetlejuice condense la plupart des thématiques que Burton explorera tout au long de sa carrière, donc l'adolescence et le mal-être avec le personnage de Winona Ryder, le sentiment de ne pas être intégré dans le monde, le goût pour l'humour noir et les créatures effrayantes, et également l'expressionnisme allemand. Il y a quelques décors qui font directement référence au cabinet du docteur Caligari. Ce film marque aussi la rencontre entre Burton et Michael Keaton, qui tient le rôle de Beetlejuice, le gros dégueulasse, avec une énergie communicative, et à qui le réalisateur confiera le rôle de Batman, Bruce Wayne, quelques temps plus tard.
Bienvenue au pays des merveilles, plaisir et émotion fort assuré. Un paradis pour les businessmen qui s'emmerdent. Allez, mes petits cocos, approchez. Quel beau couple, venez tester votre force.
Voilà, donc au final, Beetlejuice s'avère être un joyeux foutoir qui emporte l'adhésion du public aux grandes dames de l'establishment hollywoodien qui jusqu'alors pensait le public incapable d'être réceptif à tant d'étrangetés. Et aujourd'hui, le film est considéré comme un véritable classique de la comédie, ce malgré l'aspect bricolé et les imperfections plus ou moins volontaires qu'il contient. Mais avant même de réaliser Beetlejuice, Burton avait commencé à travailler sur un autre long métrage pour les studios Warner. Et après les bons résultats de Beetlejuice, le réalisateur se voit donner le feu vert pour lancer la production d'un projet qui traîne depuis une dizaine d'années, l'adaptation sur grand écran de Batman.
Thank you.
fait, vers le milieu des années 80, plusieurs comics vont quelque peu révolutionner la vision du personnage de Batman. Il y a The Dark Knight de Frank Miller et The Killing Joke, écrit par Alan Moore, qui familiarise les lecteurs avec un traitement beaucoup plus sombre du personnage et de l'univers dans lequel il évolue. Et les pontes de Warner, qui n'étaient pas particulièrement emballées par l'approche très noire de Tim Burton, vont alors lui laisser le champ libre. Donc pour incarner le super-héros, le réalisateur refait appel à Michael Keaton, malgré les objections véhémentes des fans qui écrivent au studio des dizaines de milliers de lettres de protestation. Parce que ce comique, après Beetlejuice, il est un peu catalogué comme comique, il a participé aussi à d'autres comédies, et bien les fans ne voient pas du tout Keaton dans le rôle sérieux, dramatique de Batman Bruce Wayne. Quant au vilain, c'est Jack Nicholson qui endosse le costume du Joker, un rôle qui lui va à merveille et pour lequel le comédien recevra plusieurs prix. Donc, malgré les habituels déboires liés à un film à gros budget, plusieurs réécritures du scénario alors que le tournage a déjà commencé, Burton parvient à mener à bien son projet et le film sort sur les écrans en 1989. Et non content d'être une vraie réussite artistique, que ce soit dans ses décors, dans ses costumes ou dans sa mise en scène, Batman devient également le plus gros succès de l'année devant Indiana Jones et la dernière croisade et les suites de L'Arme fatale et de Retour vers le futur.
C'est votre porte-photo.
J'ai pris rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail.
De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Ah, oh, ça oui, c'est du bon travail. Les crânes, les corps, vous leur donnez un tel brillant, je ne sais pas si c'est de l'art, mais j'adore. Je vais vous dire à quoi je pensais, ma jolie. Un jour, j'étais dans mon bain, quand soudain j'ai réalisé que j'étais prédestinée à la grandeur. Vous savez, comme les gens s'attachent à l'apparence, ceci est attrayant, cela ne l'est pas. Eh bien, j'ai balayé tout ça. Maintenant, je fais ce dont les autres rêvent. Je fais de l'art jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous voyez, je suis le premier artiste assassin au monde en parfait état de marche.
Donc après l'immense succès de Batman, Burton est libre de faire à peu près ce qu'il veut, et c'est ce qu'il va faire en portant à l'écran une histoire qui lui trotte dans la tête depuis des années, celle d'un jeune homme qui ne peut pas toucher les choses ni les gens parce que ses doigts sont des ciseaux. Donc à partir de cette idée et de quelques dessins, il rédige un script avec une collaboratrice et propose le projet à la 20th Century Fox qui le valide. Donc Édouard aux mains d'argent est de loin le film le plus touchant de Tim Burton. Avec ce conte, le réalisateur revisite le mythe de Frankenstein et explore une nouvelle fois son thème de prédilection du personnage marginal qui ne parvient pas à communiquer avec les autres et donc à s'intégrer dans la société. Donc Édouard est une transposition à peine voilée du jeune Burton, artiste incompris, dont l'imagination bizarre dérange et qui ne rêve que d'une chose, c'est que l'on reconnaisse enfin son potentiel. Donc la fable qu'il met en scène devient donc une sorte d'autobiographie fantasmée où Vincent Price, dont c'est la dernière apparition au cinéma, endosse la figure du père créateur et où le désintérêt, voire la haine de Burton pour la normalité transparaît à chaque instant. Donc si le réalisateur retrouve Winona Ryder après Beetlejuice, Édouard aux mains d'argent marque également la rencontre entre Burton et Johnny Depp, qui va devenir son double de cinéma et avec lequel il va collaborer sur de nombreux autres films jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est le génial Stan Winston qui s'occupe des maquillages et des effets spéciaux des ciseaux. Et enfin, pour la troisième fois consécutive, c'est Danny Elfman qui signe la musique en composant pour l'occasion l'une de ses partitions les plus émouvantes. Donc ce nouveau film séduit la critique et le public qui vibre au son de cet amour impossible entre Johnny Depp et Winona Ryder.
Thank you.
Voilà, donc un petit extrait de la bande originale de Édouard aux mains d'argent, bande originale signée par Danny Elfman, collaborateur de toujours de Tim Burton. On va faire une petite pause et puis on reviendra un peu plus tard dans l'émission pour continuer cette exploration de la filmographie de Burton.
Et pour faire la pause, eh bien, on va passer de Elfman à Quincy Jones pour évoquer Soul Kitchen. Il n'est pas forcément facile de passer du drame à la comédie, c'est pourtant ce qu'a fait Fatih Akin, le germano-turc, en laissant un temps de côté sa trilogie sur l'amour, la mort, le diable, avec tout d'abord Eden, son premier long métrage, et puis de l'autre côté, pour nous donner une fiction drôlatique dopée à la musique soul, dont Quincy Jones illustre bien, la partie musicale. Alors Soul Kitchen est un film léger qui n'a pas grande ambition, il nous parle de l'amitié, de l'envie d'être chez soi, de la vie qui passe par l'amusement et l'amour. Car mine de rien, si Soul Kitchen est d'abord un restaurant qui sert des plats surgelés sur fond de musique soul dans un quartier populaire de Hambourg, c'est aussi l'histoire d'une rupture amoureuse. Alors le restaurant est à Zinos, un immigré grec, il est très bien intégré, le problème n'est pas là, le restaurant lui pose pas mal de soucis, en revanche, lui rapporte peu, en tout cas pas de quoi se payer une mutuelle, et ça tombe mal parce qu'à force d'en avoir plein le dos, il tient son hernie discale et est concerné par le redressement fiscal. Alors il y a sa petite amie bourgeoise qui s'en va à Shanghai, lui aimerait bien la rejoindre mais dure de quitter son resto. Et puis il y a aussi son frère qui est en liberté conditionnelle et qui déboule dans sa vie, et puis un ancien pote de lycée qui vire dans des marchés mafieux et qui voudrait bien acheter le Soul Kitchen qui se situe en fait dans un entrepôt. Et lui, ce qu'il aimerait bien y faire à la place du restaurant, eh bien, c'est des résidences branchées. Alors voilà poser les problèmes de Zinos, avec donc ce mal de dos en running gag qui le suivra tout au long des 1h30 du film. Il rencontrera aussi un cuisinier talentueux, adepte du couteau comme outil de négociation, de quoi peut-être doper les affaires de ce resto voué à la faillite. Alors c'est une tragicomédie qu'on suit là, avec un Zinos qui ne perd jamais espoir et qui se démène pour garder son rêve intact. Le scénario est suffisamment léché pour faire évoluer tous les personnages du début à la fin, et enchaîner aussi les situations drôles, cocasses, voire bouffonnes. Soul Kitchen, c'est un peu l'utopie du vivre ensemble, bien loin des débats sur l'identité nationale. Là, les générations s'entrecroisent, les différences sociales se lient le temps d'une fête enfiévrée par les aphrodisiaques et la soul music. La solidarité et l'entraide constituent le ferment d'une société qui est à reconstruire. Alors Soul Kitchen est une bouffée d'air frais, non seulement dans la filmographie de Fatih Akin, qui est plutôt un réalisateur sérieux, mais aussi pour nous, spectateurs, et pour bien vous rendre compte de l'ambiance musicale. Il y a plus de 20 titres, j'imagine, dans le film. On va écouter encore de la soul music avec The Isley Brothers. It's your thing. Do what you wanna do. Thank you. Voilà, donc vous êtes un peu entré dans la bande-son de Soul Kitchen, donc le dernier film de Fatih Akin qui est projeté eh bien seulement sur Montpellier au Diagonal. Ça, j'en suis un peu étonné parce que ça me semble être une comédie grand public. L'énergie hein, déployée dans cette comédie et puis le côté réussite, c'est-à-dire qu'on n'a pas là des blagues potaches et ainsi de suite, ça m'a fait penser à Little Miss Sunshine qui, c'était il y a 3 ans, ça, 4 ans, voire 4 ans, oui, voilà. Enfin, qui était aussi une belle réussite parce que c'est sans doute un des genres les plus compliqués à réussir, la comédie. Donc, bien, c'est plutôt bien, voilà. On repasse à Tim Burton.
Oui, ben on va continuer donc ce petit voyage. Donc après son incursion dans un style de cinéma plus intime, donc avec Édouard aux mains d'argent, Tim Burton accepte, après avoir longuement hésité, de se replonger dans un plus gros budget et de se replonger dans l'univers de Batman avec Batman Returns, qu'il tourne en 1991 et qui sort l'année d'après. Donc à bien des égards, Batman le défi est un véritable chef-d'œuvre. Avec cette suite, Burton laisse libre cours à son amour indéfectible pour les personnages torturés et oppose à un Batman névrosé comme jamais deux super-vilains mémorables, le Pingouin et Catwoman.
Mes chers Pingouins, nous voilà au seuil d'un grand événement. C'est normal que vous ayez peur. Beaucoup d'entre vous ne reviendront pas. Grâce à Batman, le moment est venu de punir tous les enfants de Dieu. Les aînés, les cadets, les troisièmes et quatrièmes rejetons. Et pourquoi pas être partial? Mâle et femelle. Merde, il y a égalité des sexes une fois les zones érogènes explosant aux quatre vents. En avant. Libération de Gotham City est aux portes de l'histoire.
Avec Batman le défi, Burton s'éloigne encore un peu plus de l'univers balisé de la bande dessinée originale pour proposer une vision gothique à souhait de la mythologie créée par Bob Kane. Donc l'une des réussites du film est le choix qu'a fait Burton de ne pas accabler le Pingouin et Catwoman. Ni l'un ni l'autre ne sont de véritables criminels, mais plutôt des créatures dont la dualité ne peut pas vraiment s'accorder avec un comportement social dit « normal ». S'il faut désigner un méchant dans Le Défi, c'est plutôt vers le personnage campé par Christopher Walken qu'il faut se tourner. Donc Walken incarne dans le film Max Schreck, un industriel véreux dont le nom, emprunté à l'interprète du Nosferatu de Murnau, et en plus d'être un hommage à l'expressionnisme allemand que le réalisateur adore, sert aussi à caractériser le personnage comme un vampire.
Sache que tout ça n'est qu'un mauvais rêve. Tu es au lit bien blotti, bourré de tranquillisants, dans le confort et le calme, agonisant sous l'effet de carcinogène que tu as personnellement vomi au cours de toute ta vie de profiteur. Tragique ironie ou licence poétique, à toi de me le dire, hein?
Mon Dieu, c'est vrai. L'homme pingouin, créature des égouts.
Aussi étrange que ça puisse te sembler, Max, toi et moi, on a quelque chose en commun. Toi et moi, on est perçus comme des monstres. Mais va savoir pourquoi. Les gens respectent le monstre que tu es. Alors que moi, jusqu'ici, non.
Franchement, vous poussez quand même un peu. Je suis un businessman. Je suis vache, oui. Roublard, d'accord. Mais ça ne fait pas de moi un monstre.
Ne me sors pas le grand jeu, Max. J'en connais un bout sur toi. Ce que tu caches, je le divulgue. Ce que tu jettes dans les toilettes, je l'expose sur ma cheminée. Tu as pigé.
Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez m'hypnotiser?
Non. Je veux te coller une migraine atroce.
Eh bien, l'effet est nul.
Ah, espèce de mauviette. Je te dirai blanc. Est-ce que je me serais donné tout ce mal ce soir juste pour te tuer? Non, Max. C'est une toute autre chose que j'ai en tête. Je suis prêt, Max. J'ai passé trop d'années là-dessous. Il est temps pour moi de m'élever, de réémerger. Avec ton appui, ton
savoir-faire, ta chuchote. Je ne suis pas né dans les égouts, vois-tu. Moi, je viens de... comme toi. Et comme toi, je veux qu'on me respecte, qu'on me reconnaisse la nature d'être humain. Mais plus que tout, je veux savoir qui je suis comme homme, apprendre qui sont mes parents, savoir enfin le nom que je porte. De simples détails qui, pour les braves gens de Gotham, ont l'air d'aller de soi.
Et au juste, pourquoi apporterais-je mon appui?
Alors Batman le défi est beaucoup plus étrange que le premier Batman, il est plus dense aussi dans son traitement des personnages et de leurs interactions, plus dramatique aussi, donc il reste aujourd'hui à mon avis l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur film de super-héros jamais réalisé, grâce entre autres à l'interprétation géniale de Danny DeVito, dont on vient d'avoir un bon exemple, et de Michelle Pfeiffer en Catwoman. Et pendant que Burton se débat à Gotham City, un certain Henry Selick est en train de mettre en boîte un autre projet estampillé Tim Burton. Il s'agit de l'étrange Noël de Monsieur Jack, dont le Burton a imaginé l'histoire et pour lequel il conçoit la plupart des dessins. Et s'il n'est pas le réalisateur, Burton collabore étroitement avec Selick, mais également avec Danny Elfman, qui est chargé d'écrire la partition et les chansons de cette superbe comédie musicale en animation image par image.
You like to see something strange?
Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat,
tell the neighbors on the diaphragm.
It's our town, everybody's free.
This town of Halloween.
I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red.
I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair.
This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween.
In this town we call home.
Après avoir mené ces deux projets de front, Burton va passer à quelque chose de radicalement différent avec Ed Wood. Donc jusqu'à présent, ses longs métrages s'ancraient dans le fantastique, mais il choisit de délaisser un peu ses créatures et ses fantômes pour s'attaquer au biopic du plus mauvais réalisateur de tous les temps. Donc si c'est d'abord la relation entre Bela Lugosi et Ed Wood Jr. qui interpelle Burton dans cette histoire, et qui lui rappelle d'ailleurs celle qu'il a eue avec Vincent Price, il se découvre petit à petit d'autres liens avec cet étrange artiste qui a rêvé toute sa vie de devenir le nouvel Orson Welles tout en réalisant des nanars avec une conviction inébranlable. Donc pour leur deuxième collaboration, Burton et Johnny Depp tracent un portrait étonnant d'un homme qui ne l'est pas moins.
Soyez les bienvenus, vous tous qui vous intéressez à l'occulte, au mystère, à l'inexplicable. Car c'est pour ça que vous êtes ici. Et ce soir, pour vous être agréable, nous sommes prêts à vous révéler ce qui s'est réellement passé. Nous allons reconstituer toute la vérité, à partir des récits secrets et des témoignages d'une poignée de malheureux qui ont la chance d'avoir survécu à cette effroyable ordalie. Les lieux, les dates, les péripéties. Mes amis, désormais, il n'est plus question de garder le secret. Aurez-vous le courage d'affronter la véritable reconstitution de la terrifiante histoire d'Edward Wood Jr. ?
Alors, tourné en noir et blanc et abordant la biographie d'un personnage plutôt inconnu du grand public, Ed Wood ne rencontre pas du tout le succès, malgré les bonnes critiques qu'il reçoit. Donc le film suivant de Burton est important parce qu'il marque une rupture dans sa filmographie. Jusqu'à Ed Wood, on peut presque parler d'un certain âge d'or pour Tim Burton, mais après cet échec public, le réalisateur hésite. Il travaille pendant quelques temps sur une nouvelle adaptation de Superman à partir d'un scénario de Kevin Smith, mais son ambition et sa vision particulière du personnage font que le projet est abandonné. Et finalement, 2 ans après Ed Wood, Burton réalise Mars Attacks, donc une comédie décalée en hommage au vieux film de SF des années 50. Pour la première fois, Burton se confronte confronte aux images de synthèse, mais son choix assumé de traiter les effets spéciaux de façon désuète permet à l'ensemble de tenir la route. Les Martiens sont volontairement grotesques et le ton du film flirte avec l'esprit des films d'Edwood, justement. Donc ce n'est qu'avec ces films suivants que Burton sacrifiera une partie de son imagination et de son amour pour le bricolage sur l'autel du numérique. Donc entre nanar assumé et film revanchard né de la désillusion Superman, Mars Attacks surprend les spectateurs et remporte un succès mitigé malgré un casting impressionnant où se côtoient Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Pam Grier, Jack Black ou encore Nathalie Portman.
1. Nos amis martiens sont des êtres à base de carbone. 2. Ils ne respirent que de l'azote. Et 3. Cette énorme masse cervicale indique à coup sûr une aptitude télépathique.
Vous voulez dire qu'ils peuvent lire nos pensées?
Potentiellement, oui.
Mais concernant leurs intentions, d'après vous, sont-ils amicaux?
Eh bien, étant donné le niveau extrêmement élevé de leur développement scientifique, ils sont plus civilisés que nous, par conséquent pacifiques et éclairés. Et l'humanité est, quant à elle, une espèce agressive et dangereuse. Je crois que les Martiens ont plus de raisons d'avoir peur que nous, les hommes. Docteur?
Merci, professeur. Depuis bien longtemps, j'essaie de mettre au point un traducteur informatique. Les résultats ne sont pas parfaits, mais ceci peut éclairer certaines de vos questions.
Grâce à la peau verte, il y a de cela 800 siècles, leur fluide corporel inclut la naissance de sang mêlé.
De combien de siècles a-t-il parlé, général ?
800, monsieur.
Est l'autodétermination cosmique. Et noir est le daim que l'on fauche, comme le blé en herbe.
Qu'est-ce que c'est que ce charabia ?
Voilà, qu'est-ce que c'est que ce charabia ? C'est un peu ce que se sont demandé les spectateurs quand ils ont découvert Mars Attacks. Et bon, après ce film, Burton va revenir à ses thèmes de prédilection, à une esthétique qui lui est plus familière avec Sleepy Hollow, donc un film de genre qui rend hommage aux productions d'épouvante gothique des studios Hammer ou Universal, et pour lequel il retrouve Johnny Depp. Donc si la direction artistique s'avère encore une fois réussie, l'originalité n'est plus vraiment de mise et on retrouve des images et une atmosphère générale qu'on a déjà rencontrées dans plusieurs œuvres antérieures du réalisateur. En fait, Sleepy Hollow correspond d'une certaine façon à la première fois où Burton a fait du Burton, sans vraiment chercher à se renouveler. Alors ensuite, il réalise La Planète des Singes, un film qui, malgré l'excellent travail de Rick Baker sur les maquillages et d'autres qualités indéniables, eh bien le film ne s'avère pas vraiment à la hauteur de la réputation de Burton. On sent le réalisateur beaucoup moins à l'aise avec la SF sérieuse qu'avec la fantasy ou avec la comédie fantastique. En 2003, Burton s'attaque à un projet beaucoup plus personnel, c'est Big Fish, ou l'histoire d'un homme qui a passé sa vie à raconter des fables à ses proches pour rendre son existence plus palpitante que ce qu'elle n'a sans doute été. Donc avec ce film, on retrouve l'imagination visuelle assez débordante du réalisateur et son humour incisif, mais bon, force est de constater que les vieilles recettes ne marchent pas aussi bien lorsqu'il essaye d'en tirer des films réalistes. Parce que Big Fish cherche un équilibre entre la fable et le mélodrame moraliste, et cette nouvelle tentative de transposer à l'écran une version fantasmée de son propre parcours se solde par un film riche, mais parfois un peu surchargé, un peu artificiel. Donc, comme le cinéaste l'avoue lui-même dans une interview, ce qui pêche la plupart du temps dans ses films, c'est l'organisation de la narration. Et comme Big Fish est justement un film qui aborde le sujet de la narration, justement, Burton est un petit peu embêté avec ça.
« Père n'a pas le droit de parler de son fils. »«
Je suis un accessoire dans cette histoire, papa. Je suis le décor pour ta grande aventure. Qui soit dit en passant, n'a jamais eu lieu. Tu vendais des articles fantasy à Wichita le jour où je suis né. »«
Oh, voyons, Will, tout le monde adore cette histoire. »«
Non, papa, pas tout le monde. Moi, je l'aime pas, cette histoire. Plus maintenant, après l'avoir entendue des centaines de fois, je connais chaque rebondissement. Je la raconterai aussi bien que toi. Pendant une soirée, une seule soirée, dans toute... » ta vie, le monde ne tournerait pas autour d'Edward Blum. T'es pas capable de comprendre ça.
Excuse-moi de te faire honte.
C'est à toi que tu fais honte, papa. Seulement, tu ne t'en rends pas compte.
Voilà, donc pendant le tournage, Tim Burton deviendra papa pour la première fois. Et ça éclaire un petit peu le film, sachant que quelques années auparavant, ses deux parents sont décédés. Donc vraiment, Big Fish, c'est un film personnel dans lequel il met à nouveau pas mal d'éléments de sa biographie. Mais on est quand même face à quelque chose qui, par moments, s'avère assez artificiel. Et donc, pendant qu'on est dans l'artificiel, on va y rester avec Charlie et la chocolaterie et les Noces Rebelles qui sortent tous les deux en 2005. Donc, si Big Fish privilégiait les effets spéciaux faits main, l'adaptation que met en scène Burton du célèbre roman de Roald Dahl carbure au numérique. Et le traitement lisse et extrêmement bariolé du monde de Willy Wonka, même dans les décors construits en dur et les costumes, provoque une certaine indigestion visuelle. La même année, avec les Noces Rebelles, Burton s'offre en quelque sorte une redite de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qu'il n'avait pas réalisé, mais sans l'aspect artisanal qu'affichait le film de Selick. Donc si le réalisateur tourne toujours avec des marionnettes, l'étalonnage numérique et le design des personnages donnent un aspect un peu trop lisse, un peu trop propre aux personnages et aux décors. Quant au scénario de ces deux films, donc Charlie et la chocolaterie et les Noces Rebelles, eh bien Burton brasse une nouvelle fois ses leitmotifs préférés, mais avec une sorte d'essoufflement qu'on peut autant attribuer à un manque de renouvellement de son imaginaire qu'à un étiolement de son côté subversif et noir.
Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je n'ai jamais eu le moindre doute en fabriquant des bonbons et maintenant je doute de tout. Je ne sais pas quel goût leur donner, je ne sais pas quelle recette essayer, je change d'idée toutes les deux minutes, ce qui est idiot. J'ai toujours fait les bonbons comme je le sentais, je... Ça vient de là, c'est ça? Les bonbons reflètent ce que je suis, et comme j'ai très mauvais moral, les bonbons sont très mauvais.
Enfin, en 2008, Burton revient avec un projet un peu plus réjouissant, l'adaptation au cinéma d'une comédie musicale à succès, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Donc, une comédie qui raconte l'histoire d'un barbier devenu fou de tristesse après qu'un notable lui ait volé sa femme et l'ait envoyé en prison. Donc, revenu sur les lieux quelques années plus tard, le barbier ourdit un plan de vengeance terrible. Et donc, après ces deux précédentes incursions dans un type de cinéma plus léger, Burton renoue enfin avec le film d'épouvante, mais en le traitant sous l'angle de la comédie musicale. Donc, le résultat s'avère bien plus réussi que Charlie ou la chocolaterie ou même Big Fish, parce qu'avec Sweeney Todd, Burton retrouve donc cet univers très sombre, morbide, où l'humour noir le dispute au tragique et où Johnny Depp et Helena Bonham Carter nous font entrer dans une danse avec le diable, particulièrement sanglante et pessimiste. Donc, au final, Burton a construit en 25 ans une filmographie singulière qui a su se démarquer sans problème du tout venant hollywoodien, grâce entre autres à son imagination visuelle. Mais il faut également noter qu'à quelques rares exceptions près, les scénarios qu'il choisit de porter à l'écran sont des adaptations de matériaux déjà existants. Donc la baisse de régime que connaît son cinéma depuis quelques années peut être en partie imputable à ses choix de sujets moins radicaux qu'à une certaine époque, ainsi qu'à un certain apaisement dû à l'âge. Burton n'est plus le jeune créateur torturé et mal dans sa peau qui projetait ses névroses sur grand écran. Aujourd'hui, son cinéma est moins baroque, moins fou, et son statut de cinéaste mondialement reconnu lui a fait perdre un peu son côté artisan bricoleur de génie qui a fait sa renommée à ses débuts. Donc on verra si sa première incursion dans le monde de la 3D avec Alice au Pays des Merveilles annonce une nouvelle période dans la filmographie de cet auteur passionnant, mais il est permis d'en douter à la vue des premières images qu'on a pu découvrir et qui rapprochent ce film peut-être plus de Charlie et la chocolaterie que de ses grands succès comme Batman, le défi. Voilà donc pour ce petit parcours de la filmographie de Tim Burton. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous recommande le livre Tim Burton, Entretien avec Mark Salisbury, édité chez Sonatine. Donc pour 30 euros, voilà, vous avez 300 pages et des centaines d'illustrations magnifiques de Burton. C'est à mon avis un bel ouvrage qui m'a beaucoup aidé pour réaliser ce dossier.
Merci beaucoup, Martin. Voilà, on va passer de Tim Burton à Eugene Green. Alors, le seul point commun que je trouverais, c'est qu'ils sont tous les deux nés aux États-Unis. Et que peut-être un deuxième, c'est que Eugene Green aime aussi beaucoup le baroque, mais ça n'a rien à voir pour autant avec Tim Burton. Alors, Eugene Green, pourquoi j'en parle ? Eh bien, parce qu'il va être présent lors des rencontres du cours de Montpellier qui débute ce vendredi et qui s'achève ce dimanche. Alors, il y a déjà un de ses films, Le Pont des Arts, qui a été projeté hier dans le cadre des rencontres du cours au cinéma Utopia. Et puis, samedi et dimanche, il y aura à nouveau donc des projections en présence du réalisateur. Alors, Eugene Green est né à New York en 1947. Arrivé en France bien avant 68, après la révolte, il reniera sa patrie d'origine et restera dans notre pays. Alors, il est non seulement cinéaste, mais aussi écrivain, dramaturge, écrivain. Je l'ai déjà dit, voilà. Et c'est d'abord comme dramaturge qu'il fait ses premières armes en 77 en créant le théâtre de la Sapience, qui veut dire savoir qui mène à la sagesse. Alors, il cherche alors à faire revivre le théâtre baroque, comme en musique, avec le style de jeu, des instruments anciens ou en danse. Alors, mais diable, qu'est-ce que le baroque ? On en trouve une réponse dans son film Le Pont des Arts.
Qu'est-ce que c'est exactement le baroque ?
Une période historique.
C'est ce que je pensais. Mais les gens baroques, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier ?
Ils disaient toujours en même temps deux choses contradictoires. Et toutes les deux étaient vraies.
Je ne comprends pas.
C'est comme si on disait qu'on est deux personnes à la fois et que l'une est vivante parce que l'autre est morte.
Il me semble que rien ne s'exclut davantage que la vie et la mort.
Mais ça n'est pas suffisant. Le baroque pourrait être caractérisé par l'exagération du mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension, l'exubérance et la grandeur. Alors au XVIIe siècle, ceux qui pratiquaient le baroque pensaient être des classiques. Mais quand Eugene Green fait dans le baroque, il l'est. Et quand sa troupe joue Molière, elle donne à entendre toutes les consonnes et les e muets et fait toutes les liaisons. Alors on en a eu un petit avant-goût là. Alors c'est un théâtre tourné vers le verbe, le langage, plus que vers le corps. Corneille, Racine, Rameau seront au répertoire. Alors passer sa période théâtrale, Eugene Green se lance dans le cinéma. Et il dit « Le cinéma est un art de la fragmentation. Si on voit une chose entière, on ne voit que la matière. En isolant un fragment, on fait apparaître l'esprit », donc dit Eugene Green. Alors fort de ce précepte, il tourne ainsi trois films aux accents bressoniens vraiment atypiques. Il y a d'abord « Toutes les nuits », adaptation libre de la première éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Ensuite « Le monde vivant », conte sur un ogre refusant de manger des enfants congelés. Et « Le Pont des Arts », une histoire d'amour hantée par le « Lamento della Ninfa » de Monteverdi. Mais commençons par le père cinématographique d'Eugene Green, me semble-t-il, c'est Robert Bresson. Alors, outre un style tourné vers la fragmentation, il y a chez Bresson le choix d'acteurs inconnus parlant comme on ne parle jamais, d'un ton quasi monocorde.
Les gouvernements ont la vue courte.
N'accusez pas les gouvernements. Dans le monde entier, à l'heure actuelle, personne, aucun gouvernement ne peut se vanter de gouverner. Ce sont les masses qui régissent les événements. Des forces obscures dont il est parfaitement impossible de connaître les lois.
C'est vrai que quelque chose nous pousse contre ce que nous sommes.
Il faut marcher, marcher.
On marche, mais c'est lui qui hospète toujours.
Qui est-ce donc qui s'amuse à tourner en dérision l'humanité ?
Oui, qui nous manœuvre en douce ?
Le diable, probablement.
Et le diable, probablement, est justement le titre de ce film de Robert Bresson, plutôt vers la fin de sa carrière. Alors maintenant, écoutons le langage et la diction à l'œuvre dans le premier long-métrage d'Eugene Green, « Toutes les nuits », sorti en 2001. Dans ce passage, il se moque de son pays de naissance, les États-Unis. Alors, vous allez entendre comment.
Je vous aime aussi, Émilie. Mais il faut nous contenter de ce qui est possible.
Tout est possible. Nous pourrons nous donner une autre vie.
Comment ?
Nous pourrons partir.
Où ?
Loin d'ici. Quelque part où nous ne connaissons personne. Où nous ne comprendrons rien de ce que diront les autres.
Je fais de l'anglais. On parle anglais partout.
Pas aux États-Unis. Nous pouvons aller à Londres obtenir les visas là-bas. Puis nous arriverons à la Nouvelle-York pour fêter le Nouvel An.
Comment vivre ?
J'ai un peu d'argent à moi. Après, je travaillerai.
Je t'aime, Émilie. Je t'aime profondément. Pars avec moi, c'est moi qui te le demande.
C'est moi qui accepte. Nous ne prendrons qu'une seule valise.
Et voilà, il s'enlace. Alors, on parle l'anglais partout, pas aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est une bonne entrée en matière dans le cinéma de Green, par le son, le verbe avant tout. Alors, c'est un amour de la langue française, des mots justes et puis quelques touches d'humour dans ce qui apparaît comme une forme d'austérité ou de distance avec son sujet. Alors, Toutes les nuits se déroulent avant et après 1968 et on suit deux jeunes provinciaux, l'un qui monte à Paris et va donc à la Nouvelle-York et l'autre qui reste dans sa région. Tous deux sont amoureux, mais pour l'un, c'est plus simple que pour l'autre. Alors, ce film ne ressemble pas à grand-chose de connu, peut-être une parenté donc avec le cinéma de Bresson, pour la diction, les acteurs qui ne jouent pas, et ça rend le cabotinage impossible. Alors, chez Green, il use abondamment du chant contre chant, orchestrant des séquences ciselées, du regard caméra aussi, qui est parfois un tabou, et du cadre appauvri. Alors, quand il s'agit d'évoquer 1968, enfin le mai 68, il y a deux CRS, quatre manifestants et six pneus en travers de la route. Voilà, c'est ce que ça donne, hein, l'illustration de 68 par Eugène Green. Alors, après Toutes les nuits, il sort Le Monde Vivant en 2003, un conte fauché avec un ogre et deux chevaliers. Et en 2004, Eugène Green continue à creuser le sillon d'un cinéma singulier, atypique, avec Le Pont des Arts, une histoire d'amour impossible entre deux jeunes gens qui ne se rencontrent jamais. L'une est chanteuse et interprète le Lamento della Ninfa de Monteverdi, et l'autre végète dans un mémoire sur la transcendance matérialiste chez André Breton. Et ce jeune homme, qui ne sait pas trop où il en est, vit une histoire d'amour un peu étrange avec une future agrégée de philo qui incarne raison et sagesse.
Je t'aime, Christine.
Tu te dissipes, Pascal.
Toi, que lis-tu ?
Heidegger.
C'est bien.
Ne sois pas vulgaire.
Je ne pense pas être vulgaire. Je t'aime.
Va te coucher. Je dois finir mon chapitre.
Et ça fait beaucoup rire en régie. La chanteuse est-elle avec un informaticien ? Et le langage, comme la relation qu'elle a avec son amoureux, est sensiblement différente. C'est à peu près la même scène, mais on change de registre.
Qu'est-ce que c'est que tu travailles en ce moment ?
Du Monteverdi.
Et c'est bien ?
Il n'y a rien de plus beau, mais c'est difficile.
Personne ne chante comme toi.
Et Noam n'arrête pas de me dire le contraire.
C'est un crétin.
C'est pire qu'un crétin. C'est quelqu'un de profondément méchant. Tu devrais te coucher.
Oui, peut-être bien.
Voilà, on se rend compte tout de suite que c'est pas du tout la même relation. Alors voilà ce que donne à entendre Le Pont des Arts. Hein. Dans la continuité, il ne faut surtout pas s'arrêter aux quelques extraits. Ce film d'Eugène Green prend toute sa force dans la continuité, dans sa totalité. S'il s'y dit des choses importantes, intéressantes, il scrute une certaine jeunesse, les relations amoureuses, l'art, les relations de travail et aussi la tyrannie de la culture d'État subventionnée et établie par copinage. Alors dans Le Pont des Arts, les gens du ministère de la Culture sont des homosexuels qui se refilent des petits genoux. Il y a là un certain Guigui, directeur artistique qui conduit l'interprétation de Monteverdi, une sorte de Karl Lagerfeld transformé en roquet.
Qu'est-ce que c'est ce bruit bestial ? Tu es censée être chanteuse. Personne ne va plus me dire que je dois prendre des meugleuses françaises, même pour faire plaisir au ministère. Chez nous, les vaches chantent mieux que ça.
Je ne comprends pas cette violence.
C'était tellement puant que j'ai envie de vomir. Tu as le timbre d'un kangourou étranglé et en plus tu n'as aucun sens du style baroque.
Je ne demande qu'à apprendre.
Recommençons si tu veux, Guigui.
C'est sans espoir. Elle ferait mieux de chercher une place de caissière chez Tati.
Voilà ce que dit Guigui, interprété par Denis Podalydès. Alors c'est le seul personnage qui surjoue, peut-être aussi Olivier Gourmet à un moment, qui est aussi un metteur en scène homosexuel lui aussi, et qui se met à faire une interprétation relativement remarquable tout seul devant un prostitué. Enfin, ça donne une séquence assez étonnante. Alors il y a des petites choses étonnantes quand même dans ce film d'Eugène Green. Et il a sorti en novembre 2009 son dernier long métrage, La religieuse portugaise, et donc ce film sera projeté ce samedi à 17h50, et puis le soir à 20h30, leçon de cinéma d'Eugène Green animé par Laurent Mesguich, donc le président des Rencontres du cours, ce sera aussi cette fois-ci pardon salle Rabelais, et puis le dimanche le lendemain salle Rabelais de 10h à midi, et bien ce seront les films courts d'Eugène Green en présence donc du réalisateur et du comédien François Rivière, et paraît-il qu'il y a un petit déjeuner offert à 9h30. Alors, pour quitter l'univers d'Eugène Green et retrouver celui de la Nouvelle-Orléans, on va écouter un petit extrait donc, de cette musique de Monteverdi qui vraiment transpire pendant tout le film. Voilà, on en a terminé donc avec ce mini portrait hein, d'Eugène Green. Sachez que Le Pont des Arts, si vous l'avez raté hier à l'Utopia, il est disponible en DVD pour réécouter ces extraits savoureux. Alors on va pas faire de chronique hein, sur Bad Lieutenant parce qu'on n'en aura pas forcément le temps, mais on va plutôt parler des événements qui sont nombreux cette semaine.
Voilà, on parlera plutôt de Herzog la semaine prochaine puisqu'on l'a vu tous les deux et on pourra en discuter un petit peu. Donc oui, on va plutôt s'occuper de l'agenda chargé de cette semaine en événements. Donc il y a déjà les rencontres du cours dont tu as donné un petit aperçu. Le site internet peut-être permet d'avoir le programme complet.
Tout le programme, hein, www.rencontresducours.fr. À noter qu'il, enfin, parmi les invités, donc j'en ai déjà parlé, il y a Eugène Green. Il y a aussi Jean-Claude Dreyfus. Qui joue le boucher de Délicatessen, mais qui a aussi joué eh bien, dans des Romères et des Mocky. Et il sera là pour son film avec Romère.
L'Anglaise et le Duc.
L'Anglaise et le Duc, parfaitement. Et il sera aussi dans les studios de Divergence FM. Alors, on fait une émission spéciale, Rencontre du cours. C'est ce samedi à 11h30. Et ça durera une heure. Donc, il y aura Jean-Claude Dreyfus. Il y aura aussi Eugène Green. Et puis Laurent Mesguich, donc le président du Festival des cours. À noter qu'il y a aussi un hommage au cours de Martin Scorsese. C'est ce vendredi 26 mars au cinéma Diagonal à 22h. Et puis la soirée de clôture eh bien, sera un hommage à Lucien Clergue avec la projection de Le Drame du Taureau et de Delta de Selle. Et parmi les invités, j'ai oublié aussi, alors elle s'appelle Marie Rivière, je crois. Hein. Elle était, oui, Marie Rivière, tout à fait, qui a été aussi l'actrice de Romère dans Le Rayon Vert et notamment Côte d'Automne et qui fait partie de ce jury parce qu'il y a aussi une compétition de courts-métrages qui a lieu bien tous les soirs. C'est Salle Rabelais, voilà.
Et pour rester donc dans le film court, demain c'est la dernière journée du Festival international du film Spot d'environnement, donc on passe au documentaire là. C'est donc une sélection de documentaires sur l'eau. Le thème principal donc c'est la gestion de l'eau dans le monde actuel. Toutes les projections et l'exposition se passent au CRDP de Montpellier, donc c'est à côté du lycée Joffre. Voilà, donc ça c'est le festival du film Spot d'environnement de Montpellier, c'est www.cinespotenvironnement.org, tout attaché. Sinon, pour les soirées spéciales au Diagonal, vous avez demain soir à 19h55 Une guerre sans images. C'est dans le cadre de, du regard sur le cinéma algérien 2010 qui continue encore. Donc c'est Une guerre sans images de Mohamed Soudani, un film qui revient un petit peu sur la situation politique de l'Algérie. Vendredi, tu en as parlé... c'est la soirée Scorsese, tout à fait. Mais avant vendredi, toujours. Non, c'est vendredi même, à 18h05, vous avez également une ressortie. Donc, c'est D'une seule voix, un documentaire qui a été déjà passé au Diagonal, qui suit le parcours d'une chorale composée de musiciens israéliens et palestiniens. Voilà, donc un film de Xavier de Lausanne, voilà, qui est projeté au Diagonal vendredi à 18h05. Donc ensuite, vendredi à 20h30, vous enchaînez sur les Scorsese. Samedi, vous avez donc La religieuse portugaise à 18h05 au Diagonal, en présence d'Eugène Green. Dimanche, vous avez un autre film en séance unique, c'est Nocturne pour le roi de Rome de Jean-Charles Fitoussi. Jean-Charles Fitoussi sera présent donc pour animer un débat après la séance. C'est une soirée organisée dans le cadre du festival Hybride 2. Également lundi à 20h, vous avez une avant-première de Mammouth. Mammouth, dernier film de Gustave Kervern et de Lépine, les deux réalisateurs de Altra et Avida. Donc Gustave Kervern sera présent a priori.
Oui, et on fera une interview, donc je pense que on pourra l'entendre un peu plus loin dans Cinérama parce qu'il sortira pas tout de suite.
Non, Mammouth sort un peu plus tard,
enfin
oui, voilà, ouais. Dans les semaines qui viennent. Donc ça c'est lundi à 20h. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout pour cette semaine. Déjà, vous avez de quoi faire.
Alors, j'ai pas précisé que la compétition court-métrage des rencontres du cours, c'est samedi 27 de 16h à 18h, donc salle Rabelais. Mais c'est aussi de 10h à 12h pour la compétition 2. Et dimanche, c'est de 12h à 14h et de 14h à 16h. Donc, c'est 2h de court-métrage. Et donc, bien à l'issue de ces projections, je crois qu'on peut voter en tant que public, mais qu'il y aura surtout un jury qui déterminera bien quels sont les gagnants. Voilà. C'était... Et à noter aussi que demain, dans Tous au poste, demain jeudi, je recevrai Laurent Mesguiche. Ce sera à 12h10 sur Divergence FM, en plus de l'émission spéciale avec Jean-Claude Dreyfus et Eugène Green ce samedi 11h30. Voilà. Ainsi s'achève
Cinérama. On se retrouve la semaine prochaine donc pour parler sans doute de Mammouth.
De Bernard Nidio ni Chaussette.
De Bad Lieutenant.
Que j'ai pu voir hier et qui. Alors ce sera Jacques Choucroun qui viendra nous en parler, le distributeur. Parce que je n'ai pas pu, à cause de ce maudit torticolis, je n'ai pas pu aller interviewer le réalisateur hier. Donc voilà. Et sinon, eh bien, on verra selon l'actu, toi. Je pense que tu parleras du Burton, voilà, forcément.
Tout à fait. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.
On remercie Pascal à la technique dans un premier temps et puis Julia dans un dernier temps. Et on va écouter eh bien, Bonne année, la bonne année, film de Claude Lelouch pour achever ce générique.
Vous avez vu Prima della rivoluzione?
Non.
Bertolucci porta tre pugni in tasca di bell'occhio?
Non più, no.
Vous avez sûrement vu une homme de mes femmes? On parle que de ça, mais sans moment.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non.
Alors, comment faites-vous pour choisir un film?
Comme je choisis une femme. En prenant des risques.
Cinérama.
Merci pour dîner et joyeux Noël.
Sur Divergence FM.
Monsieur Lam. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14. Non,
le 14, c'est des télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.